Et puis alors, il y a le troisième chapitre qui est, je pense, un des plus importants pour vous, parce que là, c'est vraiment votre analyse à vous, votre lecture de cette symphonie fantastique. Ça s'appelle Programme et Rite de Passage. Pourquoi Rite de Passage ?
Alors, ce qui est assez troublant, je suis tombé sur une chose qui, à ma connaissance, n'avait pas été relevée. Donc, Berlioz explique dans son programme, comme on l'a vu, que à un moment, il est malheureux, il s'empoisonne à l'opium pour se suicider. Et l'opium, au lieu de le tuer, lui donne des visions. Ce qui seront donc les mouvements 4 et 5. On lit ses mémoires et on tombe au début du deuxième chapitre que son père, qui était médecin extraordinaire, qui a implanté l'acupuncture en France, était le premier, un formidable médecin, et qui souffrait de maux d'estomac, terrible. Et ces maux d'estomac, il a voulu se suicider parce qu'il ne pouvait plus les supporter. Il a pris de l'opium, il s'est suicidé. Et au lieu de le tuer, cet opium l'a guéri. Et il a plus souffert de maux d'estomac. Et donc, ça a été pour le père de Berlioz, cette expérience-là, une forme de rite de passage. Et à mon avis, il y a un petit jeu de mots psychanalytique que j'ai fait, mais qui est impossible à ne pas faire. C'est l'idée d'un créateur qui rêve qu'il assiste à sa propre exécution. Donc, là, dans la symphonie, c'est une exécution capitale, on lui coupe la tête. Mais un compositeur qui rêve qu'il assiste à son exécution, ça veut dire qu'il a juste envie d'être joué. Et cette symphonie, d'une certaine façon, c'est le rite de passage pour être admis parmi les compositeurs par rapport à son temps, par rapport à ses contemporains. Et la première chose qu'il fait après la création, après le succès, c'est qu'il détruit pratiquement toutes les œuvres qui précèdent. C'est vraiment un rite. Il est devenu compositeur grâce à cette symphonie. Et l'exécution capitale mise en scène à la fin du quatrième mouvement, c'est évidemment ce que Berlioz en dit. Mais c'est aussi, à mon sens, quelque chose d'inconscient qui lui permet de devenir compositeur.
Oui, parce que vous faites appel à la psychanalyse à plusieurs reprises.
Oui, parce qu'il y a des choses
dans ce troisième chapitre pour comprendre, pour expliquer cette symphonie fantastique.
Bah déjà, quand on parle d'idées fixes, on est vraiment dans un domaine plutôt de la psychologie, de l'addiction, que de la composition. Donc ça incite.
Claude Abremont, on a demandé il y a quelques jours à un autre des écrivains primés au prix France Musique des Muses, le Carole Beffa, compositeur, qui a reçu pour son livre sur Ligeti, sa biographie de Ligeti chez Fayard, le grand prix du prix des Muses. On lui a demandé quel était son rapport à lui, son rapport à la symphonie fantastique de Berlioz.
D'abord, ce sont des souvenirs d'enfance. Je crois qu'il y a l'un des premiers disques que j'ai pu découvrir, Micro-Sillon, c'est une version de Munch. Un disque plus étonnant, moins familier que étaient ceux de Mozart, de Beethoven qu'on m'avait mis entre les mains. J'ai été frappé tout de suite par la grandeur un peu effrayante du thème du Dies Irae, qui faisait un peu penser au Moyen-Âge déjà, alors même que le reste de la symphonie me semblait dans un autre style, plus romantique. Et pour cause, j'ai d'ailleurs décidé de réutiliser ce thème du Dies Irae dans une pièce que j'ai écrite tout jeune à 12-13 ans, qui s'appelle Chinatown. Et puis à posteriori, je me suis rendu compte que ce qui devait me plaire, c'est probablement la très grande diversité des climats évoqués. Vous pouviez avoir à la fois un thème paisible qui succédait à un thème extrêmement agité, une rêverie qui se transformait en un songe, puis en un cauchemar, toute chose qui frappe énormément l'imagination de l'auditeur. Et en parlant d'imagination, je me rends compte qu'en fait, une des choses qui me plaît vraiment dans la symphonie fantastique, c'est qu'on a là une espèce de condensé d'inventivité. C'est comme si dans cette œuvre, il n'y avait pas une seule mesure sans qu'il se passe quelque chose. On a le sentiment que même quand il ne se passe rien, ça vit, ça grouille. Certains qui n'aiment pas Berlioz lui reprochent par exemple sa gaucherie harmonique. Mais peu importe, pour moi c'est une musique qui est toujours survitaminée, qui est un modèle d'imagination, qui est dans une espèce d'incroyable effervescence créatrice. C'est peut-être d'ailleurs un des rares compositeurs qui suggère l'étal et le contemplatif avec une musique qui a recours parfois au mouvement. En fait, quand j'ai découvert Malheur plus tard, je me suis rendu compte que c'était un peu Berlioz dans la symphonie fantastique, comme le chaînon manquant entre Beethoven et Malheur, c'est-à-dire quelque chose qui est entre le grotesque et le sublime, et qui est si éminemment pittoresque que on a toujours l'impression que ça raconte quelque chose.
Voilà, c'était le propos de Carole Beffa, grand prix de ce prix des Muses pour sa biographie de Ligeti, qui donnait son sentiment par rapport à cette symphonie fantastique. Si je résume en une seconde, je dirais que c'est une symphonie dans laquelle on a presque tout, enfin le monde rentre dans cette symphonie. Ce qu'on disait beaucoup d'un compositeur de l'époque qui était Wagner, mais en fait on a un peu notre Wagner d'une certaine manière.
Peut-être qu'on
Claude Abremont.
Il est peut-être pas autant aimé qu'il le mériterait, je pense en France. Ceci dit, en ce moment on joue à l'opéra, d'ailleurs un de ses derniers opéras, Béatrice et Bénédicte, d'après Shakespeare aussi. Et c'est vrai que cette œuvre, c'est une des œuvres charnières. On passe du classicisme au romantisme. Et souvent, les œuvres charnières, les œuvres qui incarnent une transition, sont des œuvres mille enjeux se croisent, donnent évidemment une richesse et quelque chose d'inépuisable.
Claude Abramon, on pourrait faire 2, 3, 4 heures d'émission autour de la symphonie fantastique. On se contentera de lire votre livre, La symphonie fantastique, enquête autour d'une idée fixe, collection La rue musicale aux éditions de la Philharmonie de Paris, prix spécial du jury de ce prix France Musique des Muses 2017. On aurait pu parler aussi, on n'a plus le temps, on aurait pu parler de l'orchestration qui est même le fait majeur aussi de Berlioz qui a inventé l'orchestre moderne. On aura l'occasion d'y revenir peut-être tout à l'heure sur France Musique avec le meilleur des concerts de Radio France consacré justement à Berlioz avec Aurélie Moreau. Allez, on se quitte Claude Abramon avec le final tout simplement de cette symphonie fantastique, c'est-à-dire le songe d'une nuit de sabbat.